aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, c'est Eric Manirakidza en direct de Washington. Le Monde aujourd'hui, du lundi 1er octobre 2018, édition de 17h30, temps universel. D'abord le sommaire. Au Cameroun, le président Paul Biya en campagne doit se rendre demain à Boya, en zone anglophone. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo demande son acquittement à la CPI. Au Nigeria, le président Buhari défend son bilan à quelques mois de la présidentielle. Les reprises des cours dans les universités du Niger après un mois de grève des enseignants. Et la première dame des États-Unis, Melania Trump, s'est envolée pour un voyage d'une semaine en Afrique. Un nouvel accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada pour remplacer l'ALENA, un traité de libre-échange. Je vous suivrai les sports dans 10 minutes, juste après le journal. Au Cameroun, la tension est vive dans les régions anglophones. Le président Paul Biya doit s'y rendre demain mardi après 48 heures de couvre-feu et à quelques jours de l'élection présidentielle. Le point avec Idriss Fall.
Les rues de Bamenda et Boya, les deux capitales anglophones, sont vides ce lundi, sauf pour de nombreux militaires qui patrouillent. Un couvre-feu de 48 heures a été décrété. À Boya, les transports publics et privés sont interdits, les entreprises et débits de boissons sont fermés. Dans la matinée, des tirs ont été entendus dans certains quartiers de la ville. De leur côté, les séparatistes ont appelé à des opérations ville morte pour célébrer le premier anniversaire d'une proclamation symbolique d'indépendance des zones anglophones le 1er octobre 2017. C'est dans ce contexte qu'une visite à Boya du président Paul Biya est annoncée pour demain mardi. Ce sera sa première visite en zone anglophone depuis le début de la crise fin 2016. Après Maroua dans l'extrême nord, ce samedi, Paul Biya fera le second déplacement de sa campagne avant l'élection présidentielle de dimanche. Jusque-là, aucun des 9 candidats n'a été en mesure de tenir un meeting dans les villes anglophones. Et les séparatistes ont promis de tout faire pour perturber la tenue du scrutin.
Idriss Fall au Mali. Une vingtaine de civils touaregs ont été tués en fin de semaine près de la frontière nigérienne. Des assaillants armés dans le nord-est du pays sont pointés du doigt. Un groupe touareg qui combat les djihadistes dans cette région avait fait état de 7 civils tués dans une attaque samedi contre cette localité. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Le président nigérian Muhammadu Buhari a défendu son bilan dans une allocution apparue comme le manifeste de son gouvernement. Il a promis de travailler sans relâche à la promotion, la protection et la préservation d'un Nigeria uni, pacifié, prospère et sûr. Monsieur Buhari vise un deuxième mandat lors de la présidentielle de février 2019. Son parti, le Congrès des progressistes, l'APC, doit l'investir ce week-end comme candidat. Toujours au Nigeria, Ali Gaga, un chef local du groupe Boko Haram, a été tué jeudi par des membres de sa faction. Ses compagnons avaient découvert qu'il prévoyait de se rendre à l'armée. Il avait pris contact avec des intermédiaires pour négocier sa reddition. En gage de bonne foi, il avait rassemblé 300 otages et qu'il prévoyait de remettre aux forces armées qui patrouillent dans la zone du lac Tchad, dans le nord-est du Nigeria. Au Niger, les cours ont repris aujourd'hui dans les universités du pays. Les enseignants ont suspendu leur grève qui durait depuis un mois. Le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur attend désormais l'issue d'une médiation de la Commission nationale des droits de l'homme. De son côté, le gouvernement a accepté de différer l'application de ces textes sur la gouvernance des universités. C'est notamment la nomination des recteurs par décret fortement contesté par le syndicat. Côte d'Ivoire, les avocats de Laurent Gbagbo demandent son acquittement pour crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. Des centaines de personnes ont fait le déplacement à La Haye pour soutenir l'ancien président ivoirien. Les détails de Morgane Guériec.
La CPI doit décider si l'accusation a présenté des preuves suffisantes pour prouver la culpabilité de Laurent Gbagbo. Mais après plus de 2 ans de procès, la défense estime que les éléments d'accusation sont insuffisants pour prouver les charges au-delà de tout doute raisonnable. Les avocats de Laurent Gbagbo demandent donc sa libération immédiate ainsi qu'un non-lieu total et son acquittement. Monsieur Gbagbo est jugé pour des crimes contre l'humanité présumés commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait et des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Il est le premier ancien chef d'État à avoir été remis à la CPI. Un important dispositif a été déployé pour le transfert de M. Gbagbo depuis le centre de détention vers la CPI, sous les yeux de centaines de partisans venus exiger sa libération.
Morgane Guiriec, à moins de 3 mois des élections présidentielles, législatives et provinciales en RDC, le centre de recherche parisien IFRI relève que la suspicion continuera de polluer le processus électoral, faute de données démographiques établies indépendamment des enjeux électoraux. 40 millions d'électeurs ont été retenus sur les listes pour les élections prévues le 23 décembre. L'opposition dénonce des millions d'électeurs fictifs inscrits sans empreinte digitale sur le fichier électoral. Depuis 35 ans, aucun recensement n'a été organisé en RDC. Melania Trump, la première dame américaine, entame aujourd'hui son premier voyage en solo sur le continent africain, n'est-ce pas, Michel Joseph?
D'après la Maison-Blanche, Madame Trump se rendra au Ghana, au Malawi, au Kenya et en Égypte pendant sa tournée de 5 jours. Elle va surtout se focaliser sur la santé maternelle, l'éducation des enfants, la culture et l'histoire des femmes. La première dame américaine parlera aussi de l'aide que les États-Unis apportent à chaque pays visité. Le bien-être des enfants a été le point central de la campagne qu'elle a lancée cette année. Ce voyage sera-t-il terni par les récents propos prêtés à son mari concernant l'Afrique? Judd Devermont, du Centre d'études stratégiques internationales, estime que Mme Trump aura une lourde tâche, ajoutant que ce serait injuste, car le voyage d'une première dame ne devrait pas porter sur de telles controverses. Joshua Merzavi, de la Heritage Foundation, assure de son côté que les propos prêtés à Donald Trump ne vont nullement affecter ce voyage, car depuis plusieurs décennies, les relations entre les États-Unis et l'Afrique vont bien au-delà de commentaires présidentiels. Melania Trump suit les pas d'autres premières dames comme Hillary Clinton, Laura Bush et Michelle Obama, qui avaient chacune effectué plusieurs voyages sur le continent.
Le président namibien Hage Geingob a lancé aujourd'hui un débat national sur une future réforme agraire. Windhoek veut corriger les inégalités foncières héritées de l'époque coloniale en se prononçant pour un recours aux expropriations. Il a engagé une politique de transfert des terres sur la base du volontariat des propriétaires qui n'a eu que peu d'effet. Il y a 2 ans, les autorités regrettaient que la quasi-totalité des terres agricoles était encore détenu par des étrangers allemands ou sud-africains. Le célèbre acteur américain Robert De Niro sera l'invité vedette de la 17e édition du Festival du film de Marrakech du 30 novembre au 8 décembre. L'acteur légendaire de Taxi Driver, Raging Bull ou Casino se verra décerner l'étoile d'or du festival marocain en hommage à sa prodigieuse carrière. Le jury de cette nouvelle édition du plus important festival de cinéma du Royaume sera présidé par le réalisateur américain James Gray.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les producteurs laitiers canadiens ont vivement dénoncé aujourd'hui le nouvel accord commercial conclu hier soir entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Cet accord ouvre un peu plus leur secteur à la concurrence étrangère. Le point avec Arzuma Compaoré.
Le Canada et les États-Unis se sont entendus la nuit dernière sur un nouvel accord baptisé Accord États-Unis, Mexique et Canada, en sigle AEUMC, pour remplacer l'ALENA, le traité de libre-échange conclu en 1994. En échange d'un meilleur accès au marché laitier canadien, Washington a accepté de maintenir tel quel le mécanisme de règlement des différends auxquels le Canadien tenait beaucoup. Selon John Johnson, l'un des négociateurs canadiens, même si les producteurs laitiers ne sont pas contents, cette entente ne pouvait pas être ignorée. Auparavant, Washington et Mexico s'étaient entendus sur les termes d'un nouveau traité commercial fin août, ce qui avait accru la pression sur les épaules du Premier ministre Justin Trudeau.
Le gouvernement français investit 15 millions d'euros pour faciliter l'insertion professionnelle des réfugiés qui peinent souvent à trouver du travail dans le pays qui les accueille. Ce programme vise 4 000 ou 5 000 réfugiés dès 2019 et ils vont amplifier les années suivantes. En Indonésie, l'OCHA indique que 191 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire urgente après le séisme suivi d'un tsunami qui a dévasté l'ouest des célèbres. Le bureau de l'ONU détaille que quelques 46 000 enfants et 14 000 personnes âgées, les populations les plus vulnérables qui résident souvent loin des centres urbains où le gouvernement concentre ses efforts. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco avec Nanit Talani.
La communauté urbaine de Douala au Cameroun octroie des contrats de collecte des ordures ménagères à trois nouvelles entreprises, Cameroun Alert System SAL, Bilpaba CEO et le groupement Genalcam SAL and Establishment New Generation. Elles se chargeront du ramassage des ordures dans les quartiers d'accès difficiles. Le montant de la transaction est estimé à 1,4 milliard de francs CFA pour 14 mois. Le Fonds monétaire international approuve le décaissement de 245 millions de dollars en faveur de la Tunisie au titre du mécanisme élargi de crédit. C'est la cinquième tranche d'un programme d'aide de 2,8 milliards de dollars approuvé en 2016. Ce décaissement ouvre la voie à l'émission par la Tunisie d'un milliard de dollars d'euros obligations ce mois-ci pour financer le déficit budgétaire. Pour contrer sa dette, la Zambie annonce l'introduction d'une nouvelle taxe sur la vente pour remplacer la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée dans le secteur industriel zambien, ce qui rend difficile le recouvrement des recettes par l'État. La nouvelle mesure vise à réduire le déficit budgétaire à 5,1% d'ici à 2021 et permettre au pays d'atténuer le poids d'une dette qui se fixait à 9,3 milliards de dollars en mars dernier. Enfin, pour finir, l'aide non militaire accordée par les États-Unis aux pays d'Afrique subsaharienne s'est chiffrée à 12 milliards de dollars en 2017, selon l'Institut français de relations internationales et stratégiques. Cette assistance non militaire américaine est 6 fois plus importante que celle de la Chine, chiffrée à 2 milliards de dollars en 2017.
Nous passons maintenant à l'actualité sportive. Ce soir, Nicolas Pinot. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous.
On parle d'abord de la veillée d'armes pour les demi-finales de la Ligue africaine des champions.
Les Égyptiens d'Al Ahly, détenteurs du record de victoire dans la compétition avec 8 titres, tenteront de creuser l'écart. Demain, au Caire, en demi-finale aller de cette Ligue des champions, face aux Algériens de l'Entente Sétif, tombeurs en quart de finale détenant du titre, les Marocains du Wydad Casablanca. L'autre affiche du dernier carré mettra aux prises les Tunisiens de l'Espérance, à un invité surprise en pleine confiance, les Angolais du Primeiro de Agosto.
Et demain, la Ligue des champions en Europe continue, n'est-ce pas ?
Faut pas interdire en Ligue des Champions pour les clubs de Manchester. Manchester United qui doit mettre fin à sa série noire entre mauvais résultats et brouille de vestiaire, tandis que City doit se relever de son entame loupée dans cette C1. À Old Trafford, Manchester United n'a plus le droit à l'erreur et accueille le FC Valence. Manchester City, de son côté, en tête du championnat après 6 succès en 7 rencontres en Première Ligue, n'a pas les mêmes problèmes. Manchester City qui s'est complètement raté lors du premier match face à Lyon. Les Citizens qui ont l'occasion de se racheter lors du déplacement en Allemagne pour affronter Hoffenheim. Dans les autres matchs, le Bayern Munich voudra poursuivre à domicile son sans faute face à l'Ajax Amsterdam, comme la Juventus Turin face aux Young Boys de Berne. A noter que les Italiens seront privés de leur star portugaise, Cristiano Ronaldo, on s'en souvient, exclu lors du premier match. Le Real Madrid se rend à Moscou pour défier le CSKA sans son capitaine Sergio Ramos ni l'ailier Gareth Bale touché aux adducteurs.
En Angleterre, José Mourinho dit ne pas craindre pour son poste.
Ah ouais, l'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, a affirmé aujourd'hui en conférence de presse ne pas craindre pour son poste malgré les mauvais résultats des Red Devils. Avant de recevoir, je le disais, Valence pour la deuxième journée de la Ligue des Champions, samedi, nouvelle défaite pour Manchester United face à West Ham, 3-1. C'est le pire début de saison du club depuis 1989, après cette journée de Première Ligue.
Du basket avant de nous quitter, le retour de la NBA, LeBron James, déjà en forme avec Los Angeles.
LeBron James a ébloui les spectateurs lors de son premier match sous les couleurs des Lakers lors d'un match de pré-saison de la NBA, mais sa performance n'a pas empêché les Californiens de s'incliner 124 à 107 face aux Nuggets de Denver. La saison régulière démarrera pour les Lakers le 18 octobre à Portland face aux Trailblazers.
C'était des sports de Nicolas Pino. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eric Manirakiza, de retour avec vous. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Au Mali, une vingtaine de civils Touareg ont été tués en fin de semaine par des assaillants armés dans le nord-est du pays. Lors d'une précédente tuerie le 25 septembre dans des circonstances similaires à l'ouest de Menaka, le ministère de la Sécurité a fourni un bilan de 27 morts, évoquant des affrontements entre des membres de la communauté Touareg. Yacouba Ouedraogo, adjoint à Paris, le chargé de la coopération et du développement des mouvements de la Zawad, Moussa Ag Assarid.
Ce qui s'est passé, d'après les informations que nous avons reçues, c'est un groupe sur plusieurs motos qui a envahi un campement et qui a fait ce massacre ignoble. Ce sont des individus plus souvent attribués à des groupes terroristes qui sévissent dans cette partie-là. C'est la suite de la déflagration qui a eu lieu depuis l'accord d'Alger où les groupes se sont éparpillés dans le territoire et il y a des vengeances de ces groupes-là sur d'autres groupes qui ont, eux, des relations avec l'État malien, qui, des fois, avec l'armée malienne, font des opérations dans cette région de Menaka.
Qui sont ces groupes-là qui s'en prennent aux Touareg dans cette partie du Mali?
On ne connaît pas exactement leur identité. Le plus souvent, ils ne revendiquent pas leurs attaques. Ils les font en catimini et puis après, ils s'en vont comme ils sont arrivés. Donc, ce qui est déplorable et que nous condamnons, c'est vraiment de s'en prendre à des populations civiles qui sont hors de combat.
Justement, vous l'avez dit, ils ne revendiquent pas leurs attaques, mais pourquoi s'en prennent-ils aux Touareg? De quel type de conflit s'agit-il?
C'est un conflit politique sur lequel se sont agrégés des individus qui ont des intérêts ou qui ont des objectifs différents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire simplement que ce sont des Touaregs qui sont visés par-ci, par-là. Et ce sont des populations civiles, point. Des fois, ce sont des Peuls, des fois, ce sont des Songoï, des fois, ce sont des Arabes, des fois, ce sont des Touaregs. Cette fois-ci, effectivement, c'est un campement essentiellement Touareg.
D'aucuns parlent d'un règlement de compte entre différentes communautés Touareg. Croyez-vous à cette hypothèse-là?
Non, je ne crois pas trop, mais il y a quand même des règlements de compte. Maintenant, est-ce que ce sont des règlements de compte entre groupes ethniques? De fait, c'est aussi ça. Mais c'est instrumentalisé.
Instrumentalisé par qui?
Par ceux qui ont intérêt, c'est-à-dire on ne sait pas à qui profite le crime. Il y a eu à un moment donné des milices qui ont été créées, des milices supplétives de l'armée malienne, et maintenant ceux que les milices attaquent ou ceux que certains attaquent qui sont militaires, ils s'en prennent aux populations civiles qui sont accusées d'être proches de ceux qui sont armés.
Moussa Ag Assarid, chargé de la coopération et du développement des mouvements de la Zawad à Paris.
Pourquoi le secteur scientifique n'est-il pas plus développé en Afrique? C'est la question posée ce soir dans À votre avis. Alors qu'un Japonais vient de remporter le prix Nobel de médecine, faisons un état des lieux de la recherche scientifique en Afrique. À l'université, les filières scientifiques ont-elles assez de moyens? Les États investissent-ils suffisamment dans la recherche scientifique et technologique? Les débouchés pour les chercheurs sont-ils satisfaisants? Morgane Guiriec en votre compagnie, réagissez en direct à 18h temps universel en appelant le 001-202-205-2633. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook, nous vous rappellerons.
L'Assemblée générale des Nations unies a accueilli des centaines de chefs d'État et de gouvernement. La question migratoire a été au menu du débat général. Selon El-Hajsi, le patron de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la protection des migrants ne devrait pas passer au second plan. Il a fait des plaidoyers auprès des décideurs pour le respect de la dignité des migrants. Suivez El Hadji au micro de Raissa Gironde.
De la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour voir comment amoindrir ces souffrances, comment sauver le maximum de vies, mais surtout comment contribuer à aider les gens à recouvrer ce qu'ils ont perdu en cours de route à cause de tous ces chocs, leur propre dignité humaine. Comme les Nations Unies, quand même, c'est un forum politique où les dirigeants du monde se trouvent. Il faut faire un plaidoyer pour que des solutions politiques soient apportées aux problèmes politiques.
Qu'est-ce que vous pensez que les dirigeants, les leaders africains devraient faire en plus pour pouvoir corriger ce problème de la migration?
Il faut mettre les choses en perspective. La migration, c'est un phénomène humain naturel. Mais ne nous voilons pas la face. Il y a aussi cette migration internationale et cet espace, malheureusement, a été laissé aux trafiquants et aux passeurs qui en font un business, qui gagnent jusqu'à 35 milliards de dollars par an, selon l'OIM, en exploitant les misères humaines, en vendant des illusions aux gens. Et au bout du compte, plusieurs jeunes Africains meurent dans le désert. Plusieurs jeunes Africains meurent en mer Méditerranée. Et que doivent faire maintenant les dirigeants? C'est d'abord prêter une attention particulière à ce phénomène. C'est également aussi protéger les gens le long des routes migratoires. Il ne s'agit pas de leur dire partez ou ne partez pas, mais qu'ils aient quand même une décision qui soit informée. Il s'agit également aussi de prendre ses responsabilités par rapport à ses propres citoyens. Ces gens qui meurent, ben, c'est un silence assourdissant autour de cela. Et ce sont nos volontaires du Croissant Rouge libyen sur les berges de la Méditerranée qui les enterrent sur place. Ceux-là qui retournent souvent parfois ne bénéficient pas d'un retour digne. On la honte de leur communauté et ceci n'encourage pas seulement.
Parlons des travailleurs même de la Croix-Rouge. Qu'en est-il de leur sécurité?
La Croix-Rouge est née dans un champ de bataille. C'est là où il y a le plus de besoins. Malheureusement, c'est là où il y a le plus grand danger. D'abord, on se forme sur les dangers pour pouvoir mieux les gérer. On s'équipe pour se protéger contre les maladies. Vous avez sans doute vu les équipements des personnes qui font les enterrements au niveau donc des épidémies d'Ebola. Mais quand on aura fait tout cela, on n'élimine pas tous les risques.
Est-ce que vous avez déjà eu un travailleur contaminé par la maladie d'Ebola?
En Sierra Leone, la dernière fois quand il y avait l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, on a eu un chauffeur qui, dans le cadre maintenant du transport des personnes décédées, était contaminé. Heureusement, on ne l'a pas perdu. Dans les situations de conflit, on n'y parvient pas toujours. On a perdu beaucoup de volontaires et de staff en Syrie. Près de 67 d'entre nous, ils sont morts. Au nord du Nigeria, ils ont exécuté froidement une sage-femme de la Croix-Rouge qui y travaillait. Les gens qui vivent dans ces régions, on vient, on leur apporte de la santé, on leur donne des vivres, ils crient pour la paix, ils aspirent à leur dignité. Et c'est la raison pour laquelle ce plaidoyer est extrêmement important.
El Hadji, secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Togo, le recensement électoral a démarré aujourd'hui dans le cadre des échéances électorales d'ici la fin de l'année. Le 16 décembre pour le référendum et les élections locales et le 20 décembre pour les législatives, la coalition des 14 partis de l'opposition avait appelé au boycott de ces opérations. Le reportage est signé Kaye Lawson à Lomé.
Le recensement électoral a effectivement débuté dans la zone sud du pays, malgré l'appel à la suspension lancé par la coalition des 14 partis de l'opposition. Au premier jour de cette opération, l'affluence n'est pas celle des grands jours, comme l'a constaté VOA Afrique au centre EPP Hedranawe. Moutoulidi Zewani, président comité des listes et cartes CLC KIS 1.
Les activités ont démarré comme prévu. C'est vrai qu'il y a eu un petit retard, mais tout a bien commencé. Les gens sont là et on a commencé par faire le cadre. Tout se passe à merveille. Les kits fonctionnent, mais on a un petit souci par rapport aux prises. Les techniciens sont en train de venir pour installer les kits.
Aux côtés des kits mal ou pas du tout configurés, s'ajoute une lenteur dans les opérations. Il faut patienter pendant au moins 2 heures. Normal que les électeurs perdent patience. Nous sommes venus pour nous inscrire sur la liste électorale, mais les opérateurs sont lents. Nous perdons du temps ici. C'est important qu'en tant que Togolaise, je dois avoir ma carte d'électeur et le jour du scrutin, je pourrai aller voter facilement. Mais sans carte, je ne pourrai pas accomplir mon devoir civil.
Ça traîne, tout le monde n'a pas le temps. On est seulement qu'à peine quelque chose de vingtaine de personnes. Depuis le matin, on n'a pas encore fait même la moitié d'aller au service. On a laissé un pour venir et faire notre cadre. Mais si on reste ici jusqu'au soir, qu'on n'allait pas faire notre cadre, on va revenir encore le lendemain. Nous sommes citoyens togolais. C'est notre devoir de faire la carte et de voter.
La coalition des 14 partis de l'opposition a appelé au boycott de ces opérations de recensement électoral. Pour Esso Agnala, l'opposition est dans son rôle.
Les politiciens, il y a des moments où ils prennent des dispositions qui les arrangent. Parce que ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. Donc pour eux, ils veulent qu'il y ait des difficultés. On constate qu'effectivement, la gouvernance n'est pas bonne. Donc c'est une logique pour les politiciens. Je ne peux pas dire que ce qu'ils ont fait, c'est mauvais, mais c'est leur logique.
Notons que ce 30 septembre, la C14 a envoyé les noms de ses 8 représentants devant siéger à la Commission électorale nationale indépendante CENI à l'Assemblée nationale. En attendant leur intégration effective, la Commission continue de préparer les élections de décembre prochain. Kailosan, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le chanteur Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans dans le sud de la France. En 70 ans de carrière et plus de 40 ans de succès, Aznavour a composé plus de 1400 chansons en 8 langues, donné des milliers de concerts dans 82 pays et a participé à une soixantaine de films. Nanit Talani revient sur certains de ses morceaux.
Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mon art en ce temps-là.
Né à Paris de parents arméniens, Charles Aznavour passe son enfance dans un cadre très artistique. Son père restaurateur et sa mère comédienne recevaient tous les artistes d'Europe centrale. Il est connu pour ses chansons comme La Bohème.
La Bohème, la Bohème, ça voulait dire on est heureux.
Charles Aznavour a aussi écrit pour Juliette Gréco, Gilbert Bécaud, Edith Piaf, qui l'ont soutenu, ainsi que Charles Trenet. La fin des années 60 est décisive pour sa carrière. La critique, jusqu'alors très aigre à son endroit, le consacre enfin vedette du Music Hall, ébloui par son fameux concert à l'Alhambra de Paris. Mais c'est 3 semaines plus tôt, le 25 novembre, que ses talents de comédien cette fois sont reconnus dans « Tiré sur le pianiste » de François Truffaut. Chanteur à plein temps, acteur à ses heures perdues, il avait fait des passages remarqués au cinéma avec quelques 80 films. Charles Aznavour est un précurseur. Il s'est intéressé à tous les styles de musique. Selon lui, c'est pour ça qu'il a eu du succès dans les pays du Maghreb, chez les Juifs et les Russes. Il était très apprécié dans presque tous les pays francophones d'Afrique.
Ils sont venus, ils sont tous là, et qu'ils ont entendu ce cri. Elle va mourir, la maman.
Charles Aznavour n'a jamais caché son amour pour le pays de ses parents. Et l'Arménie lui a d'ailleurs toujours bien rendu. Depuis 2011, à Erevan, un musée est consacré à sa vie. En décembre 2008, il avait été fait ambassadeur d'Arménie en Suisse. « Je ne suis pas vieux, je suis âgé, ce n'est pas pareil », se plaisait-il à nuancer, une façon espiègle. « Je ne suis pas vieux, je suis âgé, ce n'est pas pareil », se plaisait-il à nuancer, une façon espiègle de défier le poids des années qui ont fini par avoir raison sur sa joie de vivre.
« You are the one for me, for me ». Formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire.
Voilà le chanteur Charles Aznavour. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de votre écoute. à la mise en onde, Joselle Morissa, à la console, Thomas Blindé, Eric Manilakiza, à la présentation. Restez connectés sur Facebook et sur votre site internet voafrique.com pour plus d'actualités 24 heures sur 24. Excellente suite des programmes. Je vous retrouve à 19h30, temps universel. À très bientôt.